VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Nicolas Pinault et Salwa Jafari en votre compagnie pour cette édition du mardi soir au sommaire.
À Kinshasa, nouveau report à demain des discussions entre les signataires de l'accord sous l'égide de la CENCO. La majorité présidentielle réclame déjà plus d'inclusion.
Iteka Muet, la grande ONG de défense des droits de l'homme, a été définitivement radiée par le pouvoir burundais.
Au Tchad, le gouvernement exige que les enseignants reprennent les cours immédiatement, mais les écoles sont restées fermées ce mardi.
Nous nous demandons au gouvernement d'ouvrir le dialogue. Jusque-là, le gouvernement est resté en marbre, donc il n'y a pas d'ouverture de dialogue possible.
Dans le reste du monde, Donald Trump tape du poing sur la table dans le dossier du nucléaire nord-coréen. Washington ne laissera pas Pyongyang avoir l'arme nucléaire, prévient le prochain président américain.
Et en ce début d'année, nous irons à Conakry pour écouter les espoirs et les attentes des Guinéens.
Nos efforts s'attellent aussi à la reconnaissance de l'économie rurale et d'une manière générale au soutien au monde agricole.
Sans oublier vos rendez-vous habituels, la Minute Éco et le journal des sports, Choupo-Moting n'ira pas à la canne avec le Cameroun. Mais tout d'abord, le journal sur VOA Afrique.
L'accord politique déjà critiqué à Kinshasa, la majorité présidentielle a montré des premiers signes de désaccord ce mardi, en conditionnant
notamment sa participation. Aubin Minaku, secrétaire général de la majorité présidentielle, a expliqué que les évêques devaient d'abord présenter leur rapport au président Kabila et que ce dernier devrait reconduire leur mandat. Conséquence, les discussions sont reportées à demain, comme l'explique l'abbé Donatien Cholet, le porte-parole de l'épiscopat congolais.
Nous venons d'assister à la signature de son Excellence M. Steve Ndikaï. Ce n'est que logique, ce n'est que cohérence. C'est un travail auquel il a beaucoup contribué. Il n'était pas disponible, disposé de le signer avec les autres. Et quand il vient, sans prendre connaissance du texte, c'est signe qu'il y a travaillé. Il en est de même pour d'autres qui n'ont pas encore signé, que ce soit les MNC, que ce soit les autres collègues de l'Excellence Ndikaï. Ils sont présents dans l'accord, c'est leur accord, mais pour l'une ou l'autre raison, nous espérons, on est en pour parler avec eux, ils viendront, ils pourront venir signer après. Donc, il ne peut pas s'agir de manque d'inclusivité dans la mesure où même leurs amendements se trouvent dans cet accord. Les évêques ne ferment la porte à personne, on est en pour parler avec les uns et les autres. C'est une dynamique, le plus important c'est qu'ils se retrouvent dans le texte qui a été signé.
C'était l'abbé Donatien Cholet, porte-parole de l'épiscopat congolais, au micro de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
À Bujumbura, clap de fin pour la plus ancienne Ligue burundaise des droits de l'homme. Iteka a définitivement radié de la liste des ONG locales autorisées à travailler au Burundi.
Cette association qui veut dire dignité en Kirundi avait été créée il y a 25 ans. Les détails avec Dilidico.
Iteka, agréé depuis 1991, était suspendu d'activité depuis le début de la crise déclenchée par la décision en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat qu'il a remporté en juillet de la même année. Pour enfoncer le clou, les autorités ont décidé ce mardi de dissoudre la Ligue en réponse à la publication en novembre d'un rapport coécrit avec la Fédération internationale des droits de l'homme qui faisait le point sur les répressions gouvernementales et les violations des droits de l'homme. Une ordonnance du ministère de l'Intérieur déclare Iteka définitivement radié de la liste des associations sans but lucratif œuvrant au Burundi. En chair, Nicoya Guizé, président d'Iteka, actuellement en exil, affirme ne pas être surpris de cette décision. « Nous n'allons pas renoncer à notre mission », a-t-il promis. Les grandes figures de la société civile et les responsables des médias indépendants burundais sont eux aussi en exil.
Les juges d'instruction français ont terminé leurs investigations sur les accusations de viol sur des mineurs portées à partir de 2014 contre des soldats de la force Sangaris en Centrafrique. Et pour le moment, il n'y a eu aucune inculpation dans ce dossier à Paris.
On vient de l'apprendre qu'aujourd'hui, trois soldats nigériens ont été tués et 7 blessés dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une attaque de position de l'armée par Boko Haram dans le sud-est du Niger. Information du colonel Mustapha Ledrou, porte-parole du ministre nigérien de la Défense.
Adoption du projet de loi modifiant le code électoral au Sénégal suite à la révision constitutionnelle validée par le référendum du 20 mars dernier. Le texte a été adopté à une écrasante majorité.
Le nombre de députés sénégalais passe de 150 à 165. Les 15 nouveaux sièges sont attribués à la diaspora avec la création de 8 nouveaux départements électoraux à l'étranger. Des députés de l'opposition ont voté contre le texte ou se sont abstenus, estimant qu'il n'y avait pas besoin d'augmenter le nombre de députés, car cela impliquera notamment des rémunérations.
Au Mozambique, l'opposition crée la surprise en prolongeant de 2 mois un cessez-le-feu unilatéral dans le but de favoriser les pourparlers de paix en panne depuis des mois. L'ancienne rébellion de la RENAMO avait repris les armes en 2013. Elle avait annoncé déjà une trêve le mois dernier, l'appelant un geste de bonne volonté, comme nous l'explique Abdourahmane Dia.
Le chef de la RENAMO, Alfonso Dhlakama, a reconnu qu'il y a eu quelques petits incidents, mais que la trêve que son mouvement vient de prolonger s'est globalement bien passée. Avec cette prolongation, les armes devraient se taire jusqu'au 4 mars. Pendant cette période, la RENAMO dit espérer un environnement propice à l'accélération des pourparlers avec le gouvernement à Maputo. Entamées fin mai 2016, les négociations visent à mettre fin au conflit larvé qui oppose l'armée à la RENAMO. Le gouvernement n'a pas immédiatement réagi à l'annonce surprise de la RENAMO, mais hier, le président Philippe Nyusi avait estimé que la responsabilité d'un éventuel prolongement de la trêve incombait à la RENAMO. Le Mozambique, déchiré de 1976 à 1992 par une sanglante guerre civile qui a fait 1 million de morts, vit une nouvelle période d'instabilité depuis 2013. Le chef de la branche armée de la RENAMO reste retranché dans les montagnes et réclame un partage du pouvoir après les législatives de 2014, remportées par le Frelimo, le parti au pouvoir, mais dont elle conteste les résultats. Mi-décembre, les médiateurs avaient quitté le pays sur un constat d'échec.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Séoul a jugé que le président américain élu Donald Trump avait adressé à la Corée du Nord un avertissement clair en balayant ses revendications de progrès quant à son programme nucléaire balistique. Nathalie Barge.
La Corée du Nord vient d'affirmer qu'elle en était aux dernières étapes du développement d'une arme nucléaire capable d'atteindre le territoire américain. Mais cela n'arrivera pas, a déclaré Donald Trump hier dans un tweet. Dans son discours du Nouvel An, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que son pays en était aux dernières étapes avant le lancement test d'un missile balistique intercontinental, ajoutant que Pyongyang avait renforcé de manière significative son arsenal nucléaire cette année. Jusqu'ici, Donald Trump n'avait jamais fait clairement connaître sa position sur le sujet. Le message du président élu Trump peut être considéré comme un avertissement clair, a déclaré le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Jung-hyuk. Pour lui, la politique américaine envers la Corée du Nord va rester en grande partie inchangée. Leur position sur la nécessité de sanctions contre la Corée du Nord demeure inébranlable, a-t-il estimé.
À Istanbul, l'auteur de l'attentat est toujours activement recherché. On en sait plus sur le profil du tireur avec la diffusion de photos par les autorités qui suivent la piste d'un suspect originaire d'Asie centrale. Les autorités ont diffusé plusieurs images de l'assaillant présumé qui a tué au moins 39 personnes, pour la plupart des étrangers, qui célébraient le Nouvel An au Reina, l'une des plus célèbres boîtes de nuit de la métropole turque.
Au moins 25 personnes, membres du groupe Front Fath Hashem, dont plusieurs chefs ont été tués mardi dans un raid aérien contre un siège de cette ex-branche syrienne d'Al-Qaïda dans la province d'Idlib, a indiqué une ONG. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a affirmé que le raid avait visé l'un des sièges les plus importants du groupe en Syrie.
Et puis en Allemagne, le ministre allemand de l'Intérieur a dévoilé ce mardi les grandes lignes d'une réforme en matière d'expulsion des migrants et de renforcement du renseignement intérieur pour parer aux dysfonctionnements mis en évidence par l'attentat de Berlin. Le ministre conservateur Thomas de Maizière insiste sur la nécessité de renforcer les pouvoirs de l'État fédéral en matière de renseignement intérieur, actuellement partagés par les 16 États régionaux, les Länder. Il propose en outre de multiplier les compétences de la police fédérale et de mettre sur pied un centre de crise qui chapeauterait l'ensemble des services concernés.
Nouvelle embûche sur le chemin du Brexit. L'ambassadeur britannique auprès de l'Union européenne a démissionné mardi, aujourd'hui, moins de 3 mois avant le déclenchement du processus. Ivan Rogers, nommé en novembre 2013 par l'ancien Premier ministre David Cameron, était supposé jouer un rôle de premier plan dans les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE.
Et puis au Yémen, 16 membres des forces gouvernementales ont péri ce mardi lors d'affrontements séparés avec des combattants d'Al-Qaïda et des rebelles houthis. 15 combattants d'Al-Qaïda et 9 rebelles chiites houthis ont péri dans ces violences survenues dans des régions sud de ce pays pauvre de la péninsule arabique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco en compagnie de John Linden.
En RDC, la croissance devrait atteindre 2,9% cette année contre 7,7% de croissance annuelle moyenne entre 2010 et 2015. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par la Banque centrale. Le pays, dont 95% des revenus d'exportation proviennent des industries extractives, a subi de plein fouet la chute des cours mondiaux des minerais en 2014 et 2015, principalement due à la baisse de la demande chinoise. La finance islamique arrive au Maroc. La Banque centrale marocaine et le ministère des Finances ont autorisé la création de 5 banques islamiques dites participatives. Des crédits halal et des comptes conformes à la charia seront donc bientôt disponibles dans le pays. Selon Standard & Poor's, cité par Usine Nouvelle, la finance islamique pourrait représenter entre 10 et 20% du système bancaire du Maroc. Au Nigeria, le riz en plastique était en réalité du riz de contrebande. Le 21 décembre, les douanes du Nigeria avaient saisi 102 sacs de 50 kg de présumé riz en plastique destinés à être vendus à l'approche des fêtes de fin d'année à Lagos. Selon un communiqué des douanes nigérianes, des analyses ont permis d'établir que le riz incriminé n'était pas en plastique, mais plutôt contaminé par des micro-organismes et donc impropre à la consommation.
Au sport avec vous, Nicolas. Et on commence avec cette défection de taille pour le Cameroun à 2 semaines de la CAN au Gabon.
Oui, Saloua, l'attaquant de Schalke 04, Eric Maxime Choupo-Moting, s'est retiré de la sélection camerounaise selon un communiqué de son club. Il ne participera donc pas à la CAN 2017 au Gabon, toujours prévue entre le 14 janvier et le 5 février prochain. L'Algérien Mabil Bentaleb et le Ghanéen Baba Rahman, eux, disputeront bien le tournoi continental avec leurs sélections respectives, ajoute Schalke 04. On rappelle que plusieurs joueurs camerounais figurant dans la préliste de 35 joueurs du sélectionneur Hugo Brousse ont décliné la sélection, à l'image du milieu défensif de Lille Ibrahim Amadou ou encore du défenseur de Liverpool Joël Matip.
Sadio Mané lui sera bien à la CAN avec le Sénégal.
Le meneur sénégalais de Liverpool, transféré cet été de Southampton pour 40 millions d'euros, laisse son équipe des Red Devils, deuxième de la Première Ligue. Sadio Mané, on le rappelle, a inscrit 9 buts depuis le début de la saison.
Et Nicolas, les éléphants de Côte d'Ivoire bénéficieront d'un budget de 3,9 milliards de francs CFA cette année.
Un budget en hausse pour leur stage de préparation et leur participation à cette CAN 2017 au Gabon. L'État ivoirien respectera ses engagements vis-à-vis de la Fédération de football afin que l'équipe nationale se déplace pour défendre son titre, a annoncé le ministre des Sports et Loisirs Albert-François Amika sur les ondes de la RTI. Comparé à celui de 2015, ce budget est en hausse de 400 millions de francs CFA.
Tennis à présent, retour avec la compétition réussie pour Serena Williams.
Oui, l'américaine numéro 2 mondiale s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi d'Auckland. C'est un tournoi qui marque son retour à la compétition. Après 4 mois d'absence, elle s'est imposée en 2 manches contre la française Pauline Parmentier, 69e joueuse mondiale. Le score 6-3, 6-4. On rappelle que la dernière apparition sur les courts de l'ex numéro 1 mondial, détentrice de 22 titres du Grand Chelem, remontée à sa demi-finale perdue de l'US Open contre la Tchèque Karolina Pliskova, c'était en septembre dernier.
NBA championnat de basket nord-américain.
L'arrière ailier des Chicago Bulls, Jimmy Butler, a inscrit, tenez-vous bien, 52 points lors de la victoire de son équipe contre Charlotte, 118-111. En tête de la conférence Est, Cleveland s'est sorti du piège des Pelicans de la Nouvelle-Orléans en s'imposant sur son parquet 90-82.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Ravi de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui en ce mardi soir. Première escale dans la partie magazine de notre émission au Tchad où les écoles publiques étaient fermées ce mardi, jour de rentrée scolaire. À l'origine, une grève des enseignants qui revendiquent des arriérés de salaire. Pour en parler, John Linden a joint N'Djamena Jérémy Guirayo, le président du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur.
Les enseignants et chercheurs supérieurs et ceux du secondaire sont partis en grève pour revendiquer d'abord leurs arriérés de primes, indemnités et autres. Et subitement, un matin, le gouvernement sort des mesures d'austérité. Donc, c'est les raisons qui nous ont conduit à décider d'entrer en grève. Et maintenant, suite à cette grève, vous voulez que le gouvernement négocie. Le gouvernement n'a pas négocié. Et là, on vient de sortir encore les 17e mesure avec la loi 008, nous donnant au moins ce 3 jours de grève par mois. Donc tout ça n'est pas de nature à dialoguer et c'est la raison pour laquelle ce matin, il n'y a pas eu d'argument pour la prise de chevet des amphis.
Combien de temps cela va-t-il durer à votre avis?
Donc nous demandons au gouvernement d'ouvrir le dialogue et bon, qu'on sache qu'on négocie et puis on a la possibilité de lever ce modèle de grève-là pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre.
Est-ce que le gouvernement a marqué une certaine flexibilité?
Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement continue à durcir le ton.
Et si cela continue, qu'est-ce que vous allez faire?
Bon, ben, nous avons la décision de la base, donc nous allons continuer à rester à la maison. Et si le gouvernement ne paye pas les salaires, les salaires, bon, ben, on lui dira de rester avec son argent. Et puis, nous allons demander en quelque sorte aux travailleurs et aux travailleurs de se convertir dans les petits métiers.
Et qu'en est-il des élèves, des enfants qui doivent aller à l'école?
Bon, mais la responsabilité incombe au gouvernement. Nous demandons au gouvernement d'ouvrir le dialogue. Eh bien, jusque-là, le gouvernement est resté en marbre, donc il n'y a pas d'ouverture de dialogue possible. Donc, nous aussi, nous restons aussi sur notre position.
Et qui est-ce qui doit s'occuper de ce dialogue, à votre avis? Est-ce que vous avez un représentant ou des gens qui sont en contact avec le gouvernement ou alors il n'y a pas de dialogue du tout?
Non, il n'y a pas de dialogue du tout. Celui qui doit ouvrir le dialogue, c'est le Premier ministre. Donc, nous avons, le Premier ministre l'a reçu 2 ou 3 fois, et bon, mais c'est des communications qu'il ne fait que nous donner. Donc, c'est pas de nature à ouvrir un dialogue.
Jérémy Guirayo, le président du syndicat national des enseignants et chercheurs au Tchad, où l'on salue.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Aux États-Unis, la rentrée parlementaire a eu lieu aujourd'hui. Fait notable, les Républicains contrôlent aussi bien la Chambre des représentants que le Sénat. Et ils ont promis d'abroger plusieurs lois votées sous l'administration Obama.
Et une polémique s'est installée puisque les Républicains ont décidé de renoncer à une révision du fonctionnement du bureau d'éthique du Congrès. C'est un peu technique dont ils voulaient limiter les pouvoirs. Abdulrahman Diya a joint Lorenzo Morris, politologue à l'université Howard de Washington.
En faisant des divergences sur quelque chose si extrêmes, ils peuvent désorienter plus ou moins la réaction des potes du Parti démocrate et beaucoup de médias pour la prochaine fois, les prochaines tentatives dans d'autres domaines qui seraient beaucoup plus fondamentaux dans la politique conservatrice.
Est-ce que vous pensez que les Républicains ont été surpris par la réaction des démocrates et aussi des différentes organisations qui ont dénoncé cette tentative de modifier le fonctionnement du bureau d'éthique?
Pas tellement, à mon avis, parce que je croyais que c'était une diversion, une tentative presque en bouc émissaire de déorganiser, de provoquer une réaction assez sévère pour montrer qu'ils sont capables d'aller à l'extrême, mais en même temps, en retirant, en hésitant d'aller à cet extrême, ils peuvent avoir un effet de donner l'image d'être ouvert au compromis. donner l'image au public qu'ils sont capables à finalement attirer les deux parties, l'autre partie dans son suite et leur accepter ce qui se passe. Parce qu'en retirant ce projet, ils ont effectivement montré qu'ils sont capables, pour certains, de gouverner son réaction extrême.
Est-ce que ce qui s'est passé avec le bureau d'éthique est un peu un avant-goût de ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, avec la tentative de supprimer Obamacare et tous les autres programmes de l'administration Obama? Est-ce qu'on s'attend à une bataille comme celle-là?
Oui. Je crois que c'est un peu un avant-goût, mais c'est un avant-goût de stratégie. Les diversions et ensuite le cible direct, les projets principaux. Et je crois que dorénavant, on verra des petites tentatives, des petits projets qui sont extrêmes, mais qui peuvent être retirés à côté ou juste avant des projets qui sont plus importants en domaine de politique, comme la santé, Obamacare, ou bien comme la protection des droits de vote, ou dans le domaine des impôts et la taxation pour les grandes entreprises. Toutes ces questions doivent être entirées des petites questions peut-être plus extrêmes.
Donc on s'attend à une année difficile à Washington.
Oh bien, une année difficile, mais pleine de drames, pleine de controverses.
C'était Lorenzo Morris, politologue à l'Université Howard de Washington. VOA Afrique, une fenêtre sur le monde. Rétrospective 2016 et perspective 2017 sur VOA Afrique. Partons pour Conakry, où notre correspondant Zakaria Camara a recueilli les espoirs et les attentes des Guinéens. Voici son reportage.
L'une des définitions de la Guinée de 2017 pourrait se trouver dans le discours de nouvel an du président Alpha Condé. État de droit, démocratie, paix, meilleures conditions de vie des Guinéens, voilà quelques objectifs définis mais qui demandent des actions.
Nos efforts s'attellent aussi à la reconnaissance de l'économie rurale et d'une manière générale au soutien au monde agricole. Cela permettra de consolider notre autosuffisance alimentaire à travers l'appui aux cultures de rente et la réalisation d'infrastructures d'aménagement et de maîtrise de l'eau pour l'agriculture. En matière d'énergie, le lancement de la construction du barrage de Swapiti d'une capacité de plus de 450 MW et la construction d'autres barrages, comme ceux de Kokutamba et des barrages régionaux prévus à Kobidou à Farankounedou, vont permettre de desservir la Haute-Guinée et la Guinée forestière.
Le président Condé peut aussi compter sur le plan de relance, résilience post-Ebola soutenu par les partenaires internationaux.
Il s'articule autour de plusieurs axes, la stabilisation de l'économie nationale, le renforcement du système de santé du pays, l'autonomisation des femmes et des jeunes, l'énergie, l'agriculture, la construction d'habitats sociaux.
2017, c'est aussi de la culture. Conakry sera la capitale mondiale du livre. Mais c'est une année électorale avec l'organisation prochaine des élections locales. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Cameroun, l'année 2016 s'achève avec un taux de croissance économique de près de 6%. Ce pays, qualifié de moteur de l'économie en Afrique centrale, compte maintenir ce taux de croissance dans un environnement hostile en raison de la guerre contre Boko Haram et de la chute du prix du baril de pétrole. De Yaoundé, les explications de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, BEIAC, le taux de croissance en Afrique centrale est moins de 2%. Mais le Cameroun se retrouve avec près de 6% à cause de la diversification de son économie. C'est donc ce taux de croissance, contrairement à celui de 5,7% en 2015, que le Cameroun veut maintenir. Pour y arriver, le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, revient sur les différents axes à prendre en considération.
Nous avons voulu soutenir davantage la croissance de notre pays. Et nous pensons que le secteur privé a besoin d'un accompagnement, d'un appui et des incitations importantes ont été allouées au secteur agricole dans notre pays. Il s'agit d'exonération de la TVA, d'exonération des droits d'enregistrement, d'exonération des frais de mutation, autant de choses qui, à notre avis, vont participer à doper le secteur agricole de notre pays, un secteur qui participe à la croissance et un secteur qui produit suffisamment tant de ressources en devises. Mais nous voulons également garantir une exécution satisfaisante de ce budget 2017 en veillant à ce que la qualité de la dépense soit une priorité, en veillant à ce que les dépenses fiscales soient maîtrisées et surtout orienter davantage les ressources d'investissement vers la réalisation des projets structurants.
Dans un premier temps, le gouvernement veut maintenir son cap sur les projets miniers et hydroélectriques engagés depuis quelques années. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djomessi, explique les enjeux des projets routiers.
D'abord, quand la route passe, le développement suit. Comme vous le savez, il faut que nous réussissions à relever l'état de service de nos infrastructures routières et que nos routes ne se coupent plus jamais. Vous noterez que dès 2017, nous avons introduit la gestion de nos routes par niveau de service. C'est-à-dire, quand une route est de construction ou de réhabilitation même récente, il va falloir installer sur cette route une entreprise performante qui fait un travail d'anticipation va prévenir les dégradations, qu'elles soient en terre ou alors qu'elles soient bitumées. Maintenant, comment faire pour trouver la bonne entreprise? Et c'est ça la véritable problématique. Trouver la bonne entreprise suppose donc que nous choisissions parmi celles qui sont performantes. Or, il y en a très peu.
Des efforts seront également fournis sur les plans sportifs avec la mise en place des infrastructures en vue de la tenue prochaine de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Par ailleurs, le gouvernement promet une amélioration de la qualité de l'éducation et de la santé. L'année 2017 fera aussi l'objet de la lutte contre le chômage et sous-emploi des jeunes, dans la mesure où le gouvernement annonce des projets visant à réduire le taux de chômage à moins de 16%. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Quelques notes de musique qu'on va écouter de Weeknd qui chante Starboy.
Kill any pain. Look what you done. I'm a starboy. Look what you done. I'm a starboy. Every day and try to test me. Every day and try to end me. Pull off in that roadster. For the king, that's a far cry. I come alive in the fall time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, song, bump a new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table, come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean it with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, like to get me laid. Switch on my core if I kill any pain. Look what you done.
Voilà, c'est sur ces notes de musique que va s'achever cette édition du Monde Aujourd'hui. Michel Joseph était à la mise en onde, à la console Mr. Wagner. Présentation Nicolas Pinault et Salwa Jaffa.
Ainsi va le Monde Aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez vos questions, posez vos commentaires pour participer aux émissions interactives. Et rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com pour l'info 24 heures sur 24. VOA Afrique vous souhaite une excellente soirée. We'll be right back.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.